Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et dans un instant, nos invités, Victoria Abril et Jean-Baptiste Monnier, ils forment un duo détonnant sur la scène du Théâtre de la Madeleine. À Paris, dans Paprika, c'est une comédie écrite pour eux par Pierre Palmade. Nous prendrons connaissance de nos express du jour préparés par Olivia Leray. Et puis côté télévision, ce soir à 23h sur France 2, Hippocrate aux enfers, un documentaire de Michel Simès qui porte à l'écran son livre sur les atrocités commises par les médecins nazis. Ce sera l'un des choix d'Isabelle Morini-Bosque. Mais donc dans l'immédiat, on vous emmène au théâtre.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Victoria Abril et Jean-Baptiste Monnier, bonjour.
Bonjour. Hola, hola, buenos días.
Ah, c'est agréable. Vous êtes donc à l'affiche de la pièce Paprika au Théâtre de la Madeleine. Oui. Une pièce écrite par Pierre Palmade. Victoria Abril, on ne vous avait pas vu sur scène en France depuis 30 ans, depuis Nuit d'ivresse.
Oui.
Pièce dans laquelle vous aviez repris le rôle créé par Josiane Balasko.
Oui.
Voilà. Est-ce que Pierre Palmade a écrit Paprika spécialement pour vous?
Non. Arrêtons de rêver de faire des châteaux en Espagne, bon. Mais on s'en fout. L'important, c'est que c'est une pièce unique,
ouais.
C'est un cadeau du ciel. La pièce que tu vas faire, il passe une fois tous les 30 ans,
oui.
Et tac, je l'ai attrapé. C'était pas pour moi, il a écrit en pensant à ses femmes qu'il adore, Mayan, et Amanda Lear allait la jouer il y a 3 ans. Il y a eu un problème,
ouais.
des disponibilités.
Mm-hmm.
Et donc, il m'appelait en me disant, j'ai une pièce qu'on doit commencer en janvier, patata, est-ce que tu veux bien la reprendre? Enfin, ils n'avaient même pas commencé. J'ai dit, mais envoie-moi la pièce, j'étais à Londres. Mm-hmm. Et elle me l'envoie, je lis, j'ai dit, putain, c'est un ovni, ça. C'est pas possible. Donc, je le lis, je lui dis, écoute, j'arrive. Parce qu'en plus, mm-hmm. il m'appelait en décembre pour janvier.
Oui,
c'est comme ça qu'il faut me prendre, maintenant pour tout de suite. Oui, parce que si j'ai réfléchi, il y a des films qui arrivent.
Il
y a 10 000 raisons pour ne pas le faire. Et donc, je dis oui, j'arrive. On fait une lecture avec les castings qui étaient supposés pour Amanda Lear. Il trouve que ça ne va pas bien, que patatin patatin. Ce n'était pas encore Jean-Baptiste. Donc, il dit, excuse-moi, pardon de t'avoir fait venir, de tatata, mais non. Je me suis dit... J'étais naze. Et il a dit, non, merci, ça va. Et bon, très bien. 2 ans plus tard, en juin dernier, il me rappelle à nouveau, il me dit, ça y est, j'ai le casting. Donc, ça veut dire que ce n'était pas moi qui étais mauvaise. Donc, j'ai le casting, et quand tu peux. Et je lui dis, écoute, je tourne Clem, ma série, et j'ai fini en novembre. Oui. Donc, il me dit, on commence en décembre, répétition en décembre, et voilà.
Quel rebondissement, hein.
Oui.
Alors, Jean-Baptiste Monnier, après une pièce plutôt confidentielle et intimiste, La chanson d'éléphant de Nicolas Billon, en 2013, vous jouez donc une comédie grand public avec une star. Est-ce que ça signifie que c'est plus au théâtre qu'au cinéma que vous souhaitez même, vous-même, aujourd'hui faire carrière?
Je ne sais pas si c'est vraiment un choix défini, mais en tout cas, on m'a souvent proposé des pièces de théâtre. On me propose plus de pièces de théâtre que de films en ce moment. Et puis, je ne sais pas, j'ai grandi de mes 12 ans à mes 16 ans sur des scènes pour chanter tous les week-ends.
Mmh.
Et le théâtre, j'ai appris un peu sur le tard quand je suis parti aux États-Unis, sous les conseils de Gérard Jugnot, qui m'a toujours dit de prendre des cours de théâtre. Et c'est quelque chose qui m'a énormément, énormément plu. Mais c'est vrai que ça fait plus d'une dizaine d'années que je connais déjà Pierre Palmade, grâce aux Enfoirés notamment. On a travaillé ensemble sur des sketchs et tout ça, et ça faisait un moment qu'on avait aussi envie de travailler ensemble sur un projet un petit peu plus gros. Et quand il m'a proposé le rôle de Luc dans Paprika, c'était aussi il y a 2 ans, donc finalement, toi si c'était il y a 3, moi c'était il y a 2. J'ai tout de suite accepté. Je voulais me lancer aussi ce challenge une première fois dans une comédie, donc du coup c'était quelque chose de nouveau.
Alors c'est formidable parce qu'on a bien compris que c'est l'alchimie finalement de votre distribution qui donne envie à Palmade de monter tout ça après des rebondissements invraisemblables.
Voilà.
Alors Monique Younes est à nos côtés. Bonjour chère Monique.
Bonjour.
Vous m'avez dit que Paprika, comme son nom l'indique, est une pièce piquante.
Oui, le paprika est à base de piment doux, ça pique mais pas trop. Et c'est le cas ici avec l'histoire de cette femme, Eva de Villeneuve, qui présente malgré son âge une revue de striptease à Pigalle. Alors elle adore la scène autant que le sexe. Et quand elle a un coup dans le nez, la libido se déclenche. Et qu'il soit vieux, jeune, beau ou moche, c'est égal. Un homme se retrouve dans son lit. Et c'est ainsi. Un matin, après une soirée bien arrosée au cours de laquelle la meneuse de revue est arrivée dans les bras d'un beau pompier, on frappe à sa porte.
Il y a des jours comme ça où dès le réveil, on devrait se douter que ça va être une journée pourrie.
Alors, c'est un jeune homme de 28 ans qui apparaît. C'est vous, Jean-Baptiste. Vous vous appelez Luc Sommelier. Vous êtes de Grenoble et vous prétendez être le fils d'Eva.
Jeune homme, Eva n'a pas de fils. Eva n'a pas d'enfant.
Ça, si vous le permettez, c'est une discussion que j'aurai avec Eva elle-même.
Bon, écoutez, je connais Eva mieux que personne et s'il avait un fils, elle m'en aurait parlé.
Elle n'est peut-être pas fière de tout ce qu'elle a fait.
Mais si, pour la bonne raison qu'elle n'a jamais rien fait.
Alors, rattrapée par son passé et ne voulant pas paraître sous un mauvais jour, Eva s'invente le nom de Paprika et prétend être la femme de ménage d'Eva. D'ailleurs, Victoria Abril, qu'est-ce qui perturbe le plus Paprika ? C'est le fait d'être une meneuse de revue ou le fait de retrouver ce fils oublié ?
Meneuse de revue, c'est sa vie, et c'est, voilà, c'est son choix, c'est une femme indépendante, ni Dieu, ni amant, ni Macron. Le problème, c'est qu'il arrive une journée où elle n'a même pas encore dessoulé. Elle ne se souvient absolument pas de ce qui s'est passé hier soir. D'ailleurs, la pièce dure 24 heures. Le temps de dessouler, de suivre son mensonge, parce que c'est un mensonge, c'est comme les sables mouvants. Plus tu bouges, plus tu t'enfonces. C'est ça, de toute façon, les codes du boulevard. Tu vois, c'est chaque phrase, il faut que ça nous fasse rire. Moi, j'ai joué le rôle d'une femme au bord de la crise des nerfs. Voilà. Depuis le début jusqu'à la fin. Combien de temps il va être dupe, que je ne suis pas la femme de ménage. Bon, venez voir la pièce et vous verrez.
Et on retrouve effectivement plusieurs thèmes dans la pièce qui sont chers à Pierre Palmade, les enfants mal aimés, l'abandon, la paternité. Il y a cette phrase de Simone de Beauvoir, « On ne naît pas femme, on le devient », qui se transforme dans la pièce. On n'est pas le fils de quelqu'un, on le devient. Vous êtes d'accord ?
Absolument. D'ailleurs, je ne savais pas que c'était de Simone de Beauvoir avant de lire plus tard que c'était de Simone de Beauvoir. J'ai trouvé ça très bien parce qu'il arrive à nous... D'abord, je suis son fils, je l'ai dit. Eh bien, d'une, ça reste à prouver. Et des deux, on n'est pas le fils de quelqu'un, on le devient. Et puis, il s'avère que ça ressemble beaucoup à une phrase de... Mais moi, je ne le savais pas.
Effectivement, parce que lui est un élève de Sciences Po,
assez cultivé, qui est très, très, très malin, malicieux, et qui est toujours très excité de rentrer...
Un peu plus classique que Paprika, quand même.
Un petit peu plus classique, oui, c'est sûr.
Jean-Baptiste Monnier, on a l'impression que dans cette pièce, que vous arrivez enfin à vous débarrasser de votre visage d'ange, qui vous colle à la peau depuis le film Les Choristes, et dont vous vous moquez d'ailleurs dans une de vos récentes chansons. Alors voilà, est-ce que cette peau est en train de enfin se déchirer ?
Ah, j'espère. J'ai mué vocalement il y a très longtemps. J'espère mieux maintenant en tant qu'acteur.
Il est sûr que vous êtes un grand garçon.
C'est bon. Oui. Parce que pour moi, c'est une aventure qui remonte maintenant à plus d'une dizaine d'années. C'était quelque chose qui m'a lancé, en tout cas dans ce monde-là, qui m'a fait aimer aussi le métier de comédien. Et puis le fait aussi de revenir par la scène, c'est quelque chose. J'ai plein de choses à prouver en fait aussi. Moi, je me lance beaucoup de challenges et de défis. J'ai des choses à prouver par la scène et d'avoir le contact du public et qui me voit aussi dans autre chose. Même si c'était, comme vous l'avez dit, ma première pièce dans un plus confidentiel et dans un plus petit théâtre. Bon, voilà, là, c'est quelque chose de tout nouveau. Tout
mais
nouveau.
C'est plus un boulet, vous vivez libre par rapport à tout ça.
Oui, non, maintenant ça va. Oui, je suis passé à autre chose.
Jean-Baptiste Monnier, Victoria Abril, vous restez avec nous. On poursuit cette discussion dans un tout petit instant.
RTL, 9h08. Belle matinée sur RTL.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Et nous sommes toujours en compagnie de Victoria Abril et de Jean-Baptiste Monnier qui jouent au Théâtre de la Madeleine la pièce Paprika de Pierre Palmade, mise en scène par Geoffrey Bourdonnais. Jean-Baptiste Monnier, est-ce que c'est intimidant de jouer avec Victoria Abril ? Cette comédienne est dans notre vie maintenant depuis 30 ans, donc comment vous vivez ça, vous ?
Moi, au début, aux premières lectures...
Il n'était pas né.
Non, moi, au début, aux premières lectures, j'étais très, très, très intimidé. Et puis l'exercice de la lecture est toujours compliqué, je trouve, quand on est à table et qu'on a envie de donner plein de choses, mais qu'on veut faire les choses bien, propres, mais on sait qu'on va pas donner ça sur scène et que ça va pas être vraiment comme ça. Donc, j'avais peur d'être très mauvais et j'avais un peu de mal à me libérer de tout ça. Puis après, avec les répétitions qui sont venues, on a commencé un peu à s'apprivoiser et à vraiment s'amuser ensemble. Et samedi, en tout cas, lors de la première, il y a eu un
moment. moment. Attends, il y a eu un moment, parce que moi, comme lui, moi je suis beaucoup plus vieille, mais je suis pure. Voilà, j'ai fait 2 pièces de théâtre, ça c'est la deuxième, la première c'était il y a 32 ans. Voilà, moi,
ce sont des émotions très fraîches, très fortes.
Pour moi, c'est comme si j'avais fait une prise au cinéma d'une heure et demie. Bah, j'ai fait une prise au théâtre d'une heure et demie, toute l'histoire. Allez, vas-y, on fait comme si on, avant, tu vois, tout dans une seule prise. Donc, il y a eu des moments, bon, à peine, j'ai dit la première fois, ça commence à rire, donc il a fallu quand même apprendre à arrêter un petit peu le timing, les débits, pour laisser les gens rire et pouvoir continuer. Donc, j'avais l'impression d'être arrêté sur image. Tiens, ça rit, hop, dès que ça baisse un peu, je continue pour pas perdre les trucs. Donc, déjà ça. Mais il y a eu un moment où j'étais dans un état second, tu sais, j'étais dans un coffin, et à la fin, tu sais, quand ils découvrent la vérité, et qu'on est accroché les yeux dans les yeux l'un dans l'autre, clac, quand les moments où tu lui dis, voilà, la phrase que je ne peux pas dire, que je ne peux pas dire, tout d'un coup, il paraît, on m'a dit après, que ça rit, c'est-à-dire même dans les moments dramatiques, ça rit et ça applaudit. Tu veux croire que je n'ai même pas entendu? J'étais tellement dans ses yeux, dans la peur de est-ce que je vais être bien reçue par lui, est-ce que je vais être... Et j'ai même pas entendu, quand même, les applaudissements, il faut le faire. Hein. Et cette pièce, ça vaut la peine de tous les jours. Je n'ai signé pour 60 prises. On a déjà fait un, ce soir on va faire la deuxième. Il y a notre directeur querido, plus l'auteur qui nous a déjà quand même donné 4-5 pages de correcciones, petites corrections à droite, à gauche. Et à mon avis, ça va être comme ça jusqu'à la fin, parce que les possibilités de cette pièce, je crois qu'on a de quoi faire une comédie nouvelle chaque soir.
Et vos personnages sur scène ont au moins un point commun, écoutez.
À ma mère, je lui dirai tout ce que j'ai dû faire pour que le centre de jeunesse me donne son identité.
Et qu'est-ce que vous avez dû faire ?
J'ai couché, avec la directrice. Et j'ai fini par obtenir mes informations. Eh oui, j'ai couché pour réussir. Ça vous choque ?
Non, c'est de famille.
Alors, cette mère, Victoria Abril, tant recherchée, hein, elle va vraiment vous déplaire, Jean-Baptiste. Vous rêviez d'une mère élégante, gentille, dans la norme, vous qui êtes, on l'a dit, élève de Sciences Po, et vous découvrez, comme vous le dites dans la pièce, une vieille maquerelle liftée qui ferait honte à n'importe quel fils misérable. Alors, au fur et à mesure où vous croyez élégant, gentil, mais vous n'êtes ni très élégant, ni très gentil, finalement.
Il était amortri, il était dolori. Parce qu'en plus, c'est un mensonge, je trouve.
Donc, moi, on est forcément encore plus déçu quand on apprend ça et qu'on s'aperçoit qu'on est un peu le dindon de la farce. Donc, on a des mots crus, mais c'est une colère justifiée.
Et sentie, et puis voilà, il n'y a rien à dire. Hein. Et puis, attends, disons une chose. Cette pièce en pétrage, il faut le dire, juge personne. Donc, continuons l'exemple.
Bah, puisqu'on est dans le jugement, Victoria Abril, moi, je vous ai souvent entendu dire, j'ai pas de tabou, le sexe, c'est naturel, la pudeur, ça n'est pas dans le corps que je la mets. Votre personnage, Paprika, vous la trouvez pudique, vous ?
Pas du tout. Pas du tout. Et quand j'ai dit ça, je parle de moi comme actrice.
Oui, bien entendu.
Pas dans la vie. Dans la vie non plus, d'ailleurs.
Parce que votre personnage est touchant. Eva avait des rêves d'indépendance, mais comme vous dites dans la pièce, j'ai préféré une vie de merde qu'une vie
en
de
liberté,
pouf.
Non, une vie de merde en liberté qu'une vie de pouf emprisonnée.
Voilà, elle est beaucoup plus
Eva,
complexe.
Voilà, parce qu'il dit, vous avez lavé le vie, sauté, nourri, logé, parce qu'il m'écroit encore la femme de ménage. Et c'est là où j'ai dit, la belle vie. Femme de ménage qui s'accorde de temps en temps un petit plaisir avec un joli garçon, ben non, c'est pas la belle vie.
C'est beaucoup plus complexe qu'elle.
Non, la belle vie serait un villa, un yacht, voiture avec chauffeur. Mais j'ai préféré une vie de merde en liberté qu'une vie de pouf emprisonnée.
Alors elle a peut-être une vie chaotique, mais elle a des amis, Paprika. Le moment où on se sent le moins paumé, c'est quand on se sent aimé, est une de vos répliques.
Ouais.
Est-ce que, comme dans la pièce, vous avez beaucoup d'amis qui ont la chance d'être aimés par vous, Victoria Abril ?
Si, c'est vrai. On m'aime beaucoup.
Et vous en donnez beaucoup ?
Pas tout ce que j'ai.
Et vous, Jean-Baptiste ?
Moi aussi, je suis très bien entouré. Tous mes amis, ma famille sont là depuis des années. Et c'est formidable, ça nous porte, ça nous aide à aller de l'avant. Et quand on voit qu'ils sont émus et fiers de nous, de ce qu'on fait, ça nous touche encore plus.
Ils étaient là le soir de la première ?
Claro bien que sûr. Si.
Pour vous voir sur scène, Victoria Abril et Jean-Baptiste Monnier, on peut se rendre au théâtre de la Madeleine. Vous jouez donc Paprika, une pièce écrite par Pierre Palman, mise mise en scène par Geoffrey Bourdonnais, avec Julien Caffaro, Prisca Demarez et Jules Doucet. C'est du mardi au samedi à 21h. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés par Laissez-vous tenter pour nous parler de ce spectacle.
Merci à vous.
RTL 9h15.
Et dans quelques instants, on se retrouve pour parler télévision avec Isabelle Morini-Bosque et tout d'abord pour nos express avec Olivia Leray. A tout de suite.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Les Express LVT.
Il est donc grand temps de retrouver nos Express du jour avec Olivia Leray. Bonjour Olivia.
Bonjour.
À la veille de l'annonce des nominations pour la 43e cérémonie des Césars, on connaît donc le nom de l'invité d'honneur de cette année.
C'est l'actrice espagnole Penélope Cruz qui succède à George Clooney. Elle recevra un César. Césardo, je ne sais pas comment on dit en espagnol, César d'honneur, le 2 mars prochain, salle Pleyel.
Vous appelez ça un César d'honneur.
Pourquoi pas? Et on rappelle que c'est Manu Payet qui présente la soirée et que Vanessa Paradis ouvre la cérémonie.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix qui cite au mange là. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient, qui me fascinaient.
Vanessa Paradis qui rendra très certainement hommage à Jeanne Moreau, décédée en juillet dernier. La 43e nuit des Césars, un événement à vivre sur RTL en partenariat avec Canal+, présenté par Vincent Perrault et Stéphane Boutsock, avec les commentaires du réalisateur Régis Varnier, de 20h à minuit le vendredi 2 mars. Donc.
Michael Haneke va réaliser sa première série.
Dans la lignée de David Fincher, Martin Scorsese ou encore Steven Soderbergh ou Danny Boyle, Haneke se lance également à son tour. Le cinéaste autrichien, double palme d'or à Cannes et oscarisé, tournera Kelvin's Book. C'est l'histoire d'un groupe de jeunes gens obligés d'atterrir d'urgence et donc livrés à eux-mêmes. Série produite par Fremantle, la série comptera 10 épisodes et sera tournée en anglais.
Les toutes premières images du film Le Collier Rouge, Jean Becker.
4 ans après la comédie Bon Rétablissement, le réalisateur revient avec l'adaptation du roman éponyme de Jean-Christophe Ruffin, paru en 2014. François Cluzet et Nicolas Duvauchel partagent l'affiche de ce drame au lendemain de la Première Guerre mondiale. Nicolas Duvauchel est retenu au fin fond d'une caserne dans une toute petite ville. Sa famille attend sa libération et François Cluzet est un juge qui va débarquer pour démêler toute cette affaire.
Avant la guerre, j'étais un jeune militaire de carrière idéaliste. L'honneur, la tradition, la patrie, j'y croyais à tout ça. Pourquoi il aboie comme ça, ce chien?
C'est le chien du détenu, mon commandant. Allez, debout, Barlac!
Je suis le chef d'escadron Lantier du Grèce, chargé de juger votre affaire. Je ne comprends pas qu'un type qui a reçu la Légion d'honneur puisse se rendre coupable de ce qui vous a reproché aujourd'hui. J'imagine que vous étiez ivre.
Je ne suis pas saoul, je ne regrette rien. Et personne n'obligera à m'excuser.
Vous le connaissiez, vous, ce Morlac, avant son coup d'éclat? Un drôle de type.
On vous met pas tout pour tout voir, faudra aller en salle en mars prochain.
En tout cas, Duvauchel-Cluzet, on sent que ça, voilà, ça marche bien. Des boîtes à livres installées à l'intérieur ou près de certaines gares franciliennes.
L'idée de ces mini, toutes petites bibliothèques, c'est de permettre à tous les voyageurs d'emprunter gratuitement ou de déposer des ouvrages eux-mêmes pour qu'ils arrivent dans d'autres mains. À terme, les boîtes seront implantées dans 200 gares. Les boîtes à livres vont fonctionner en partenariat avec la bibliothèque ou la médiathèque de proximité. Et après, c'est un partage entre tous les usagers. Les livres vont aller et venir. Le budget de l'expérimentation, c'est 214 000 euros.
Merci beaucoup Olivia Leray. On va donc passer à notre télévision. On commence par les audiences avec Médiamétrie, Isabelle.
Eh bien, première place logique pour Camping Paradis. 5 millions de téléspectateurs et 20% du public sur la une. Mais qui est deuxième? Eh bien, L'amour est dans le pré. Que sont-ils devenus? Qui est traditionnellement l'émission à l'audience la plus basse. Que sont-ils devenus? Ben, on voit ce que ça vient après les portraits. Il y a toujours une petite lassitude. Eh bien là, 3 500 000 téléspectateurs et 15% du public. C'est un record depuis longtemps pour les Que sont-ils devenus? Et en troisième position...
On voit les animaux de la ferme aussi dans Que sont-ils devenus?
Moi, j'attends. Et troisième position, Unité 42... Formidable polar belge, j'arrête pas de le dire. 3 50 000 téléspectateurs. L'échec, c'est pour le documentaire Passeport pour une nouvelle vie sur la 3. Moins de 1 50 000 téléspectateurs et moins de 5% du public sur la 3. Ça, c'est un vrai insuccès. Et côté TNT, c'est W9, la chute de la Maison Blanche. 1 500 000 téléspectateurs. C'est donc 500 000 de plus quasiment que sur France 3.
Nos programmes de ce soir mardi, par quoi se laisse-t-on d'abord tenter à 20h50? Par le match Rennes-PSG sur la 2?
Si vous voulez, ben moi ce sera crime parfait sur la 3. Chaque épisode de cette collection commence par un crime parfait, que l'on voit, comme dans Columbo, avant enquête menée par un acteur différent par soirée. La première soirée était assurée par Isabelle Gélinas. Ce soir, c'est Antoine Duléry qui s'y colle. Moi je l'adore. Il est épatant en flic plus important. compliqué qu'il y paraît, face à un juge d'instruction retors et tordu, mais comme c'est Samuel Labarthe, moi, franchement, je prends.
Par ailleurs, l'événement, c'est Hippocrate aux enfers. C'est un doc montrant à 23h05 sur la 2 les horreurs commises par les chirurgiens nazis dans les camps de concentration.
Exactement. Horreurs commises par les chirurgiens sur les déportés qui leur servaient de vivier littéralement pour leurs expériences de cobayes. À Ravensbrück, à Auschwitz, ce doc est tiré du livre écrit par Michel Simès il y a 3 ans au nom du devoir de mémoire, ses deux grands-pères étant morts à Auschwitz, mais également parce qu'une question l'obsède depuis toujours.
Comment des médecins peuvent, alors qu'ils ont prêté ce fameux serment d'Hippocrate, considérer des êtres humains comme moins que des animaux, quelque chose à part. Ce qui avait déclenché mon envie d'écrire ce livre, c'était une question qui revenait sans cesse. C'est pas bien ce qu'ils ont fait, mais ça a fait avancer la médecine. Or, ça n'a rien fait avancer du tout. Les médecins, parfois des grands spécialistes, avaient juste oublié que les juifs, les tziganes qu'ils utilisaient pour leurs expériences étaient des êtres humains. Puis Mengele, qui a fait des expériences absolument horribles sur les jumeaux, parce que Mengele voulait absolument découvrir le secret de la gémellité. Il se disait, si je découvre les secrets de la gémellité, le peuple allemand pourra peupler le monde 2 fois plus vite. Ce qui n'était pas faux. Sauf qu'il n'y avait pas de secret de la gémellité, que toutes les expériences les plus atroces commises sur des enfants n'ont bien évidemment servi à rien. C'est une des réponses qu'on apporte aux questions qu'on peut se poser.
Alors certains ont objecté que le thème n'est pas neuf. Ben oui, à quoi le fait d'en avoir parlé empêche-t-il d'en reparler ? Cette émission est nécessaire. L'équipe, évitant un sensationnalisme qui aurait été insupportable, vu le thème, reste que rien n'est omis, tout est montré. La suite avec Michel Simès.
Ils ont fait des expériences dans tous les domaines. À chaque fois, l'alibi était de sauver le peuple allemand. Et à chaque fois, il s'agissait aussi d'essayer de sauver l'armée allemande. Par exemple, les expériences qui ont été faites dans l'eau froide, où on plongeait des Russes dans des eaux à 2 degrés pour voir combien de temps ils mettaient pour mourir, avaient, d'après eux, un but qui était de sauver les soldats allemands, les aviateurs qui tombaient dans la mer du Nord quand ils étaient abattus par les Alliés. Voilà, à chaque fois, on avait une sorte d'alibi. Bon, après, 70% des médecins allemands avaient épousé l'idéologie nazie. Ce qui est beaucoup, et pour une raison simple, moi qui suis médecin, quand je soigne un patient, je soigne une personne, un individu. Et bien, les médecins allemands qui avaient épousé l'idéologie nazie soignaient un peuple. Ils voulaient éliminer du peuple allemand toutes les tumeurs que pouvaient représenter les autres.
On voit la pressurisation auquel ils soumettent les cerveaux des déportés pour tester, pour voir comment améliorer les réactions des pilotes, des jeunes pilotes allemands en vol, parce qu'ils ne supportent pas la pression et l'altitude. C'est absolument terrifiant. Et il y a aussi les infections. Les infections qu'on ne sait pas soigner. Les nazis versent littéralement des germes infectieux dans de grandes entailles qu'ils infligent aux prisonniers. Témoignage de rescapés.
Je me suis réveillée avec beaucoup de fièvre et la jambe dans le plâtre.
Vous avez endormi?
Oui.
Et ensuite, vous avez regardé votre jambe?
Non, pendant 3 semaines, de toute façon, la jambe était plâtrée. Ils ont fait une espèce d'ouverture pour évacuer les plaies.
Ce que j'ai vu, c'était les cicatrices affreuses de mes camarades sur leurs jambes. Cicatrices qui avaient parfois 40 à 50 cm de long. D'autres jambes étaient tout à fait déformées, privées de muscles, et certaines femmes avaient eu les deux jambes brisées et ne marchaient qu'avec les béquilles.
Et alors, Michel Simès, un livre, un document, c'est tout, on en reste là ?
J'ai écrit le livre, Hippocrate aux enfers, en me disant, c'est bon, j'ai plongé dedans pendant plus d'un an, c'était pénible. Je me suis dit, je vais arrêter là, j'ai fait mon devoir de mémoire, etc. Devoir de mémoire, et puis les questions que je me pose en tant que médecin. Ensuite, je me suis dit, je vais faire le doc. On l'a fait, j'en suis très fier, j'espère qu'il sera vu par le plus grand nombre. Et après, je me suis dit, bon, vous savez, dans mon bureau, j'ai la photo de tous les médecins du procès de Nuremberg. J'ai des photos de cobayes qui avaient survécu et qui étaient venus au procès. J'ai la géographie des camps de concentration. Tout ça affiché dans mon bureau. J'avais juste envie qu'après le doc, je puisse enlever tout ça. En fait, ce doc m'a probablement donné envie d'aller faire des portraits de ces médecins, d'aller chercher les paperclips, d'aller chercher les pays dans lesquels ils ont été réutilisés après. Voilà. Je ne sais pas si je vais le faire. C'est une question que je me pose et qu'on se pose avec le réalisateur.
Voilà, la suite d'ici quelques semaines. Alors moi, j'ai un petit bémol en revanche. Il y a une musique jouée par le quatuor de Renaud Capuçon et Michel Simès l'aime beaucoup. Moi, très franchement, pas. Je la trouve angoissante, exaspérante, lancinante et surtout omniprésente. Et c'est dommage parce que c'est ma seule petite réserve.
23h05, ce soir sur France 2, le documentaire Hippocrate aux enfers signé par notre ami Michel Simès, que vous retrouvez bien entendu tous les jours à 8h10 sur RTL. À tout de suite.
RTL 9h26.
Merci à à toute cette équipe féminine qui m'accompagnait ce matin dans Laissez-vous tenter. Et on retrouve tout de suite notre camarade Julien Courbet.
Vous faisiez un petit peu le coq d'ailleurs.
Oui, un petit peu le coq de basse-cour.
Est-ce que vous avez choisi votre favorite ou pas encore?
Non, d'abord je ne peux pas le dire.
Ah. On a toutes des qualités.
Je suis obligé de faire preuve d'un petit peu de psychologie et pas plus de 4 poules.
Pas plus de 4 poules, non. Dis donc.
Il a choisi Victoria Abril et puis c'est tout.
Ah, mais voilà. Raison,
merci, Monique Younes me sort d'un mauvais port.
Tu as remarqué que j'ai fait aucun commentaire.
Ben si, là vous venez d'en faire un. Merci beaucoup.
Bonne émission, on vous écoute avec plaisir.
Vous écoutez RTL.